la question que nous posions à nos invités était la suivante. Êtes-vous d'accord avec le fait de modifier la loi du retour, Lise Benkemoun? Je vous laisse nous dire les résultats et nous présenter vos invités.
On avait plutôt non, 67% de non pour 33% de oui en globalité sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir non pas un invité, mais deux pour répondre à cette question du jour. Alors, par galanterie, je vais commencer par les dames. On est avec Peggy Sidor, journaliste et spécialiste de la société israélienne. Bonjour Peggy.
Bonjour, je m'excuse pour les cartons, je viens de déménager.
Et on est en ligne également avec Yom Tov Kalfon qui nous fait le plaisir d'être là, ancien député Yamina. Bonjour Yom Tov.
Bonjour, Boker Tov.
Alors donc Peggy, puisqu'on commence par les femmes, dites-nous d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette modification de la loi du retour? Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre?
A priori, je suis contre, mais je pense qu'il faut d'abord expliquer les raisons derrière ça. Enfin, cette clause dans la loi du retour a été déjà changée plus d'une fois. C'est pas la première fois qu'on y touche. On l'a rectifiée selon les besoins de l'État d'Israël, dans les périodes, quand il y a eu cette grande vague d'immigration venant de l'ex-Union soviétique et qu'on a voulu intégrer dans ces masses, il y a eu plus d'1,2 million Olim qui sont arrivés de l'ex-Union soviétique. Il fallait arranger cela en fonction du fait que tout le monde s'est dit, bon, 70 ans, 75 ans de communisme ont créé des faits sur le terrain qu'il faut prendre en considération. Et puis, on a offert toutes sortes de solutions pour faciliter le guillour, donc la conversion. Ce n'est pas la situation aujourd'hui. Donc, je pense que ce qu'il y a derrière, c'est autre chose qui est beaucoup moins admissible, à mon avis. Mais je laisse mon confrère, Monsieur Yom Tov, nous expliquer ses raisons. C'est peut-être pour savoir un peu où nous en sommes.
Alors, Yom Tov Kalfon, puisque vous, a priori, vous êtes pour, expliquez-nous un peu votre point de vue.
Déjà, il faut bien comprendre, on ne parle pas de modifier toute la loi du retour, mais d'un article qui a été modifié, comme ça a été dit par Peggy, en 1970. Et en réalité, c'est la seule modification qu'a eu la loi du retour depuis qu'elle a été votée en 1950. Et paradoxalement, la loi du retour est la loi la plus stable de l'histoire d'Israël, alors que ce n'est même pas une loi fondamentale. Vous savez, on a des lois en Israël qui ont force de constitutionnalité, ce qu'on appelle des Hukei Yesod, et que paradoxalement en Israël, on a des lois constitutionnelles qu'on modifie parfois à chaque gouvernement. Par exemple, l'actuel nouveau gouvernement est en train de modifier plusieurs lois constitutionnelles. Et la loi du retour, qui n'est pas une loi constitutionnelle, n'a presque jamais été modifiée. Et elle a été modifiée une seule fois en 1970, pour rajouter cette clause du petit-fils, qu'on appelle, donc en fait c'est une clause qui permet en fait à la troisième génération de faire la alia, donc pas seulement quelqu'un qui est juif de père ou de mère, mais quelqu'un qui est juif aussi en fait qui a au moins un grand-père juif. Et certains pensaient que c'était lié aux lois de Nuremberg avec qui étaient les lois à l'époque de la Shoah pour envoyer dans les camps. C'est pas vrai. Quand ça a été fait, c'était dans les débats de la Knesset à l'époque, ça n'a même pas été rappelé les lois de Nuremberg. C'était pour d'autres raisons. Paradoxalement, contrairement à ce qu'on croit, cette loi n'a pas été utilisée en masse par les juifs d'ex-URSS dans les années 90. Les juifs qui sont arrivés dans les années 90 n'étaient pas de la troisième génération. Ils étaient généralement de la première ou deuxième génération. Par contre, ces dernières années, donc on parle des années 2010-2020, on arrive à une situation où la majorité en réalité des Olim, en fait, ne sont pas juifs. Et pour beaucoup, en réalité, ils sont non seulement pas juifs, mais en fait, ils ont seulement un grand-père juif, ce qui fait que leur lien avec Israël et leur lien avec le judaïsme est presque accidentel, voire hasardeux. Et ce qu'on a peur, c'est qu'en réalité, la loi du retour devienne un outil pour une immigration, en réalité, qui n'est pas sur la base, qui était le principe de la loi du retour, mais sur une base économique, comme il y a des mouvements migratoires dans tous les pays, en réalité, et des gens, en fait, abusent de cette loi, alors qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas juifs, ils n'ont pas de lien avec Israël, ils n'ont pas de lien avec l'histoire juive. Et encore une fois, je mets de côté la question de la halakha. Ça n'a rien à voir avec leur pratique religieuse. Je parle même de leur culture. On parle de gens qui sont de culture chrétienne, qui sont russes, chrétiens, pratiquants même, qui ne connaissent pas un mot d'hébreu, qui, encore une fois, ont juste par hasard retrouvé dans leur généalogie un grand-père juif et ont utilisé ça pour changer leur situation économique. C'est pour ça que, oui, il faut modifier cette loi, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vu que cette loi n'a presque jamais été modifiée dans l'histoire d'Israël, il faut faire très attention à cela. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'elle devienne à son tour, comme beaucoup d'autres lois en Israël, quelque chose qu'on pourrait modifier à chaque élection et à chaque Knesset. Et quand c'est la droite qui est au pouvoir, alors on va la modifier dans un sens. Quand c'est la gauche, dans un autre sens. Alors ça serait très mauvais, puisque ça lui ferait perdre de son statut de presque... Moi, quand j'étais à la Knesset, je l'ai appelée comme cette loi comme étant kadosh, comme étant sainte. C'est elle qui m'a permis à moi de faire l'aliyah et de devenir à la fois israélien et donc et par la député. Et donc cette loi est pour moi tellement importante et tellement sacrée qu'il faut faire très attention si on la modifie.
Peggy, vous vouliez répondre.
Ah oui, absolument, je vais répondre. Parce que d'abord, il faudrait quand même comprendre une chose. Cette loi du retour, c'est une loi antidémocratique par essence, par son essence même. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est presque inadmissible. Elle a été acceptée non seulement par les Israéliens de gauche, de droite et d'ailleurs, et par une grande partie du monde occidental au moins, parce qu'elle était une loi qui permettait de rectifier quelque chose qui a été très grave dans l'histoire juive. C'est-à-dire que les Juifs aient un endroit où ils sont acceptés a priori sans qu'ils aient où se réfugier, puisque nous avons eu l'expérience terrible du XXe siècle. Donc il faut faire attention avec cette loi. Il faudrait, vous avez utilisé le mot kadosh, c'est-à-dire sanctifier. Alors la sanctification, ça demande un éloignement, ne pas y toucher, parce que c'est une loi qui est très problématique. Elle a son droit d'existence quand on considère l'enjeu qui est par rapport au peuple juif. Il y a encore trop d'endroits dans le monde où un juif, c'est quelqu'un qui dérange et qui empêche de vivre. Alors, il faut quand même préserver cette possibilité, mais il faut pas trop l'utiliser à mauvais escient. Donc, commencer maintenant à faire une espèce de nettoyage par le fond, de rejeter tous ceux qui ne sont pas vraiment reliés à leur... Je comprends, si y a un chrétien russe ou autre qui se découvre un arrière-grand-père ou un grand-père juif et qui décide que bon, ça va peut-être servir à quelque chose pour une fois, il vient ici et il a d'autres intentions, je peux comprendre le malaise, mais pour un ou deux comme ça, vous envoyez tout le monde avec le bébé dans la baignoire, comme on dit, avec l'eau de la baignoire. On fait pas une chose pareille, on fait pas,
parce que ça fait tomber. Une seconde,
je veux terminer ma phrase. Ça nous fait tomber dans le fossé d'une loi qui est antidémocratique. Démocratique par son essence même. Donc il faut faire attention avec cette loi. Il ne faut pas trop l'utiliser.
Mais moi, je suis d'accord avec vous au niveau de l'analyse, Peggy. Et j'étais de ceux qui pensent et qui continuent de penser que moins on touche cette loi, mieux c'est. Le problème, c'est qu'il y a aussi une situation sur le terrain qu'on ne peut pas nier. Si c'était un ou deux, comme vous avez dit vous-même, ou si c'était 10%, comme dans les années 90, on parlait de 10% de personnes qui ont utilisé le Seif Anechet, la clause du petit-fils. Aujourd'hui, on parle de 50 à 70%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une situation, en réalité, toute la loi du retour est utilisée pour cette clause du petit-fils. Et en réalité, c'est-à-dire que viennent à nos portes et rentrent en Israël des milliers de personnes qui n'auraient été rien à voir avec la culture israélienne, avec la culture juive, avec le judaïsme, et on fait rentrer dans notre pays, en réalité, des gens qui...
Combien d'entre eux vont se faire convertir? Est-ce que vous avez des chiffres?
Alors justement, très peu, c'est ça aussi le problème. Et moi, je suis de ceux, dans le dernier gouvernement, dans la dernière coalition dont j'étais membre, je suis de ceux qui ont soutenu le fait qu'il faut qu'il y ait une réforme du système des conversions en Israël, notamment à cause de cela, puisqu'en réalité, le fait qu'il se sont passés malheureusement deux processus contradictoires ces 20 ou 30 dernières années. D'une part, donc le nombre de gens qui sont rentrés par la loi du retour et qui ne sont pas juifs n'a fait qu'augmenter, et d'autre part, les conversions et la facilité, ou j'ai envie de dire la manière dont le grand rabbinat d'Israël a géré les conversions, malheureusement ces 20, 30 dernières années n'a fait que de compliquer les choses. Plutôt que d'avoir une conversion plus adaptée, encore une fois, toujours dans les règles de l'orthodoxie, de la halakha, mais une conversion qui attire, on a une conversion qui a plutôt repousser les gens, et du fait qu'on a donné automatiquement la nationalité à ces gens-là par la loi du retour, ils n'avaient aussi aucun intérêt à se convertir. C'est ça que moi, ce que je propose, et j'ai j'ai proposé ça dans la dernière Knesset, c'est de créer un statut intermédiaire. Je pense qu'il ne faut pas donner directement la nationalité israélienne à la troisième génération, mais on peut leur donner un statut intermédiaire, ce qu'on appelle la toshavut, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être physiquement là, mais ils n'auront pas la nationalité. Et pour avoir la nationalité, comme dans de nombreux pays dans le monde, dans une carte de séjour, on obtient la nationalité progressivement. Ils pourront l'obtenir ou en se convertissant, et donc du coup il y aura, je pense, beaucoup plus de gens qui sont intéressés par la conversion, ou après un certain nombre d'années en Israël, 5 ans, 10 ans, s'ils se sont mariés avec une Israélienne, etc., ou si ils se sont vraiment intégrés dans le pays, ils ont fait l'armée, et alors là, on leur donnera la nationalité. Le fait qu'aujourd'hui la nationalité est attribuée gratuitement, j'ai envie de dire automatiquement, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose, et je pense qu'il faut mériter la nationalité israélienne. Si on l'a de manière, si on est juif selon la tradition, la culture juive, selon la halakha, alors évidemment on l'a de manière innée, mais si on l'est de manière un peu éloignée, comme c'est le cas là, on parle de troisième génération, alors j'ai envie de dire il faut la mériter. Il faut la mériter, et c'est ça ce que j'ai proposé. Et encore une fois, en faisant ça, je ne ferme pas les frontières, c'est-à-dire que les gens peuvent venir, être là, mais ils n'ont pas la nationalité ils vont devoir l'obtenir. Ça existe dans de nombreux pays dans le monde. En France, il y a des gens qui ne sont pas, ne deviennent pas français automatiquement. Ils ont la carte de séjour. Ça prend 5 ans, ça prend 10 ans. Et je crois que, vous parliez tout à l'heure de démocratie, il y a oui quelque chose qui est en accord dans le monde entier, c'est qu'un pays a le droit de fixer qui rentre dans son, qui devient membre du club. Et ça, c'est démocratique. Un pays souverain a le droit de dire à qui j'octroie la nationalité de mon pays selon les règles que je fixe. Et chaque pays est souverain de fixer ses règles.
Peggy, une minute en conclusion, après c'est le journal.
Juste une seconde, je veux dire, a priori, ce que vous dites est sensé, je pourrais même y adhérer, mais le problème, c'est que les choses ne sont jamais dites ouvertement et clairement en Israël, vous le savez, puisque vous avez été parlementaire, vous le savez aussi bien que moi, on reste dans le nébuleux, et là, il y a des sortes d'exclamations qui peuvent arriver, et on se retrouve dans une situation où, non, évidemment, ce ne sont pas les lois de Nuremberg, c'est n'importe quoi, c'est des sottises, on ne peut pas dire une chose pareille, mais on se trouve devant des lois qui ne sont pas claires, et qui, dans lesquelles il remonte un relent d'antidémocratie, pour le moins, c'est ce que je pourrais dire, le moins. Et ça, il faut régler, ça, c'est pas normal, une chose pareille.
Voilà. Bon, en tout cas, on aura, à mon avis, l'occasion d'en rediscuter d'ici à ce que cette loi passe au vote au mois de mars. Yom Tov Kalfon, Peggy Sidor, merci d'avoir été avec nous ce matin pour la question du jour et bonne journée à tous les deux.
Bonne journée.
Bonne journée, merci à vous.
Merci à nos deux intervenants. C'était la question du jour. Lise, est-ce qu'on poserait la question du jour pour demain, peut-être?
Mais oui, évidemment, Blaise. Alors demain, on va complètement changer de sujet et on va vous demander, est-ce que vous connaissez ChatGPT, la nouvelle intelligence artificielle qui parle comme un humain ?